Tuer ce requin ne sera pas une chose facile. Le poisson n'est pas un poisson comme les autres. Ce requin est un mangeur d'hommes. S'il plante ses dents et qu'il referme ses mâchoires, vous êtes foutus.
Oh, arrêtez! Il suffit de lui mettre une balle dans la tête et c'est lui qui est foutu. Pas vrai?
Le requin-tigre que nous recherchons est un maniaque.
You're gonna need a bigger podcast.
Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico, et nous nous retrouvons pour nos plongées dévorantes dans les eaux toujours aussi troublées de la Sharkspotation. Nous allons donc analyser deux films de requins, en utilisant les méthodes pédagogiques de notre grille des compétences squalo-cinématographiques ou squalographiques, dans le domaine de l'originalité, de l'histoire, des personnages, de l'ambiance, de la réalisation, de la qualité des requins, plus de points d'appréciation personnelle pour arriver à une note sur 20 qui permet de reclasser le film dans une des 5 catégories, incontournable au-dessus de 16, bon au-dessus de 12, routinier au-dessus de 8, nul au-dessus de 4 et en dessous de 4 à fuir. Alors vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en pleine réforme pédagogique de l'éducation nationale en ce moment. Et après maintes discussions avec les autorités académiques au rectorat, il a été décidé de transformer légèrement notre grille de lecture. En effet, on ne parlera désormais plus de compétences squalographiques, mais de capacités squalographiques. Ce qui est à peu près la même chose. Mais le vocabulaire, c'est important. En tout cas, les inspecteurs d'académie en sont persuadés. Alors, quels sont les films que nous allons voir aujourd'hui ? Eh bien, nous allons commencer par Summer Shark Attack, alias Ozark Sharks, de Misty Talley en 2016, pour poursuivre avec Psycho Shark, plus connu aussi sous le nom de Jaws in Japan, de John Ijiri en 2009. Alors, prêt à le jeter à l'eau ?
En route pour le lac Drover !
Ouais !
C'était un requin !
Des requins d'eau douce !
Oh non, il y a un énorme feu d'artifice prévu ce soir, la moitié de la ville sera dans l'eau.
Si vous voyez un requin, hurlez.
Les balles vont pas suffire, il nous faut un truc plus puissant.
Aucun requin ne saura résister à ma chérie.
Summer Shark Attack, jeudi à 20h55, en exclusivité sur Sci-Fi.
Alors, dans le dernier épisode, je vous avais déjà parlé d'Active Entertainment, hein, Killer Shark, Ghost Shark. Un bon challenger dans la famille des producteurs des films de requins à la chaîne. Eh bien, les revoici à la manœuvre avec Summer Shark Attack, en VO Ozark Sharks. Un film assez générique, mais pas antipathique, sorti en 2016, et miraculeusement arrivé chez nous via Sci-Fi. Nous sommes donc quelque part dans le centre des États-Unis, dans la région des monts Ozark, dans l'Arkansas. Une région bien connue pour ses prédateurs, puisque c'est de cet état que vient Bill Clinton. Nous avons donc une petite famille classique qui partent pour des vacances dans les bois. Papa, maman, la grand-mère sympa, le fils gentil mais un peu dadais qui ne demande qu'à rencontrer des jolies nanas en bikini, la fille un peu gothique qui lit des livres en faisant la tête façon Daria parce que son petit copain a pas pu venir, mais bon, en fait il va venir après. Bref, tout un cast de gens qui sont bien stéréotypés et qui viennent barboter dans le petit lac du coin. Surtout que se prépare la grande fête de feu d'artifice qui va malencontreusement réveiller des requins qui vivent là. Me demandez pas comment, le film s'en fout. Mais il s'en fout dans le mode connivence avec le public de films de genre. Ouais, on sait quand même que c'est nawak, mais bon, vous savez pourquoi vous regardez, vous êtes venu voir des gens se faire bouffer par des requins, donc faites pas l'étonner. Après, nos héros, accompagnés d'un gardien de camping survivaliste et d'une jolie fille en bikini qui a survécu à une précédente attaque, qui est couvert de sang pendant tout le film mais ne pense jamais à se nettoyer, eh bien vont se mettre en tête de sauver la fête en butant les requins.
Oui, on est là pour le week-end. On a un chalet dans les bois au bord du lac.
Dites-vous, vous auriez pas un truc contre les moustiques et autres ?
Une seconde.
Faut faire gaffe à la fièvre jaune. Sérieusement. Je pensais plus à un spray.
Faut pas rigoler dans les bois, mon garçon. Ils sont remplis d'animaux sauvages. Sauvages et très dangereux. Tu serais pas le premier à disparaître dans la région. On peut pas réfléchir quand on est face à ces animaux. Ils agissent purement à l'instinct. Avant qu'ils t'en tirent ouf, ils t'ont coupé en deux. ces bois sont dangereux. Mais cet engin, ça a rétabli l'équilibre.
Ouais.
Cool. Merci beaucoup, monsieur, pour le conseil. Pas du tout terrifiant. On sera sans souvenir, mais on va se contenter des hot dogs et des chips pour l'instant.
Ce sera tout.
Oh, et aussi... je vais prendre une sucette aussi.
Bon, je vais pas vous le cacher, au départ, j'ai un peu abordé ce Ozark Shark en mode Osef Shark. Un petit film de requins interchangeable très récent, sur un canevas complètement prévisible, et usé jusqu'à la trame. Et les 20-30 premières minutes du film m'ont plutôt donné raison. Des attaques hors champ, avec passage en vue subjective du requin, le tout noyé dans un filtre vert dégueulasse pour faire les eaux de la rivière, des personnages gentiment caricaturaux qui se font bouffer, les bimbos blondes décérébrés sur le matelas gonflable qui posent en selfie, les teenagers qui vont se baigner un pétard et une bière à la main, la petite famille de héros trop proprette et trop gentillette, avec des ados interprétés par des acteurs qui sont pas loin de la trentaine. Bon, clairement, les deux scénaristes, ils ont pas décidé de se fouler. Et puis, faut aussi parler des attaques de requins, qui sont moches, mais moches. Alors, dans l'eau, on voit clairement que ce sont des images de documentaires animaliers, on a repassé un filtre vert marronâtre dessus pour essayer de faire croire qu'on est donc dans un fleuve boueux. Et puis, pour le reste, eh bien, c'est des requins qui sont en image de synthèse et qui ont des textures grisâtres caoutchouc qui font franchement gros sac. Des requins ninja d'ailleurs, capables de bouffer quelqu'un à 50 cm de vous sans émettre un seul son et sans que personne ne s'en aperçoit. Ils sont balèzes. Et puis, toute la deuxième moitié du film, on rentre quand même un peu plus dans le dur et on comprend qu'en fait, tout ça c'est le prétexte à délirer au maximum avec les squales, en faisant mourir le maximum de la façon la plus débile possible, à grands coups de feu d'artifice, de broyeuses à végétaux, ou de pagaies barbelées électriques. Oui, je sais, une pagaie barbelée électrique. Bon, faut pas prendre ce film pour plus qu'il n'est, une grosse déconnade pour sci-fi, qui ne cherche pas à péter plus haut que son budget, tout petit budget, mais qui veut faire marrer un samedi soir, devant des péripéties balisées et bien improbables. Tellement improbable d'ailleurs qu'on s'en était servi avec mon camarade Fabien lors de la dernière nuit Nanarland au Grand Rex en septembre dernier, pour la finale des quiz sur le thème « Que va-t-il se passer avec la scène du requin dans la broyeuse à végétaux ?» Je n'en dirai pas plus pour ne pas vous gâcher la surprise si vous n'avez pas vu.
Ah, vous venez de poignarder un requin avec un trident.
Ah, ils sont deux.
C'est pas vrai. Faut un plus gros trident, ouais.
Aux commandes, pour une fois, une femme, Misty Tolley, d'ailleurs à la base monteuse pour Active Entertainment. Elle a officié sur les tables de montage d'Active Entertainment depuis le début des années 2010 sur des chefs-d'œuvre comme Arachnoquake ou Ghostquake, avant de passer derrière la caméra pour enquiller depuis 2016 des films de requins à la chaîne. Il y en a 4 au rythme d'un par an. Elle se proclame d'ailleurs fièrement sur son site, dont je vous mettrai le lien sur la page du podcast, comme la première femme à avoir tourné des films pour sci-fi avec son zombie shark. Elle livre d'ailleurs un produit plutôt agréable à l'œil, sans réel génie, hein, restant dans les clous très balisés du genre, comme son collègue Griff First, et qui nous livre ce qu'on est en droit d'attendre d'un film de genre, honnête, torché sans trop de sous, ni d'originalité, mais en essayant d'être le plus imaginatif possible pour flinguer du requin. Requin bulldog, capable de nager en mer comme en rivière, ce qui justifie qu'on les retrouve à 1000 bornes des côtes, barbotant dans le fleuve. Une idée qu'elle reprendra un an plus tard pour son Mississippi River Shark. Voilà, y a pas de quoi être trop méchant avec ce film. Les acteurs sont des troisièmes couteaux vus dans plein de séries télé ou d'anciens enfants stars de Disney Channel en pleine reconversion depuis qu'ils ont atteint l'âge adulte. Voilà, c'est propre. C'est quelconque. C'est honnête. À l'image de la musique d'Andrew Morgan Smith, le responsable maison, hein, qui fait un thème sympa, puis ensuite se repose surtout sur des chansons country et un ensemble peu personnel entendu 1000 fois. Mais bon, quand tu dois composer jusqu'à 12 BO par an, forcément, t'as tendance à aller au recyclage et à l'économie. Pour l'anecdote, ce film n'a pas été tourné dans l'Arkansas. si ce n'est quelques plans larges de raccord pour faire croire qu'on est non pas dans les bayous, mais dans l'Arkansas, et dans un paysage, on va dire, plus continental. Bon, en fait, une rivière et trois bouts de forêt. Non, en fait, tout a été tourné au John Schneider Studio à Holden, à côté de Baton Rouge, en Louisiane. Alors Schneider, pour vous le remettre un peu, c'était Beau Duke, le blondinet dans Chéri Fais-moi peur. Après une longue carrière à la télé et dans des séries B, y compris de requins, comme Shark Swarm, L'Armée des Profondeurs, il a ouvert une sorte de parc d'attractions, Chéri Fais-moi peur, slash studio de tournage, slash lieu de concert. Bon, il est en redressement judiciaire à l'heure actuelle. Mais si vous voulez vivre une ambiance ce très vieux sud, country, bayou, voitures qui font des long jumps, bon, je vous mettrai le lien, hein. Ils ont fait une fête dernièrement, tribute à Chéri Fais-moi peur. Au vu des photos, c'était quand même assez rigolo. Bon, tout ça nous éloigne un peu du film, mais il y a globalement pas grand-chose à en dire. Il n'est pas antipathique, il y a quelques idées sympas qui le font surnager du lot. Si comme moi, vous avez une certaine indulgence pour ce genre de prod sci-fi bien balisé, qui essaye un minimum tout en étant sans le sou et sans aspérité non plus, eh bien, ça vous fera le samedi soir. Ça tombe bien, il pleut en ce moment.
Il m'a raccroché au nez. Il croit pas qu'il y a un requin dans la rivière.
On n'a jamais entendu parler d'un requin dans une rivière avant.
C'est déjà arrivé une ou deux fois. Les requins bulldogs peuvent survivre dans l'eau douce.
Mais qu'est-ce qu'ils font par ici?
Ils viennent de l'océan. Parfois, ils aiment pondre leurs œufs dans des eaux plus chaudes.
Des requins d'eau douce?
Curtis?
C'est bon, j'ai rien dit.
Bien, bien, bien. Alors, les compétences, pardon, les capacités squalographiques de Summer Shark Attack. Originalité insuffisamment acquise. Alors, il y a les morts rigolotes des requins qui vont peut-être un petit peu nous tirer un sourire. Parce que pour le reste, c'est quand même du vu, revu, archi-revu. Histoire, c'est non acquis. Ça se traîne vraiment au début, et les péripéties ensuite s'enchaînent sans queue ni tête. D'ailleurs, les personnages récupèrent à vitesse grand V tout trauma après avoir vu leur famille se faire dévorer. Mais c'est la loi du genre. Personnages en cours d'acquisition. Bien que tout ça soit tracé à grands traits et que les acteurs n'ont pas l'âge des persos qu'ils incarnent, eh bien ils sont globalement sympas et font le taf honnêtement. L'ambiance est insuffisamment acquise. Bah, y a le gros temps mort au milieu du film après les premières attaques et beaucoup beaucoup de remplissage. Réalisation, c'est en cours d'acquisition. Misty Tolley livre une copie bien propre, bien balisée, on pourra regretter qu'elle ne se serve pas davantage de son background de monteuse pour redynamiser l'ensemble et pour nous livrer un petit peu quelque chose d'un peu plus imaginatif. Les requins, bah, sont insuffisamment acquis. C'est pas bien beau, surtout pour des effets spéciaux qui se contentent d'être purement fonctionnels et d'avoir les requins les plus lisses possibles en 2016. Ça aurait été 10 ans avant, j'aurais passé l'éponge, mais là, c'est quand même pathété. Ce qui nous fait un total de 8, je rajouterai un demi-point pour quelques scènes imaginatives. Ce qui nous donne un 8,5, un produit routinier, certes, mais pas désagréable, qui fait son office et qui va assurer le spectacle, pour peu qu'on ne soit pas trop exigeant sur le dit spectacle. Et je suis d'autant moins exigeant qu'ensuite, j'ai vu Jaws in Japan, Psycho Shark. Et là, on est dans une toute autre catégorie. Allô, oui, l'ambassade du Japon? Oui, je suis bien content de vous avoir, là, parce que, en fait, je vous explique. J'ai acheté un DVD qui vient de votre pays, là, et, comment dire, je voudrais voir pour me le faire rembourser, parce qu'en fait, déjà, il était pas donné, et en plus, franchement, j'admire votre culture millénaire, tout ça, ça, y a pas de problème, hein. Oui, non, oui, alors, le film, il s'appelle Psycho Shark, ou Jaws in Japan, de 2009, de Johnny Jiri. Et comment dire, c'est pas très très bon, hein. Ah oui, vous le connaissez. Non, parce que déjà, le côté dans de la mer, c'est un peu survendu, hein. Je veux dire, il y a bien une scène de requin à la fin, mais bon, faut quand même se fader une heure d'étudiantes en bikini qui font des poses pour selfie, hein, en étant maté par un mec trop chelou qui a une tête de chanteur de J-pop emo sur le retour. Oui, non mais... Non, je suis le premier à apprécier des étudiantes en bikini, c'est... Non mais là franchement, c'est pas terrible quand même, hein. C'est filmé pire que les vacances de mémé au caméscope, et il se passe rien. C'est pas le Japanese dans de la mer, hein, c'est le Japanese Jurassic Shark. Je sais pas, David de Coteau s'est fait naturaliser chez vous? Oui? Non, je comprends bien, mais à 40 euros sur Amazon le DVD, Non, mais je comprends bien. Mais on peut peut-être envisager un genre de geste commercial. Je sais pas si vous avez des cartes Pokémon en rab ou... Même un bol de ramen, je m'en contenterai, mais... Non, je sais bien, on vous a refilé Mireille Mathieu, mais bon, quand même, non... Arrêtez de ricaner aussi, c'est sérieux, on parle d'un film de requin. Non, mais écoutez ma détresse, quand même, faites un geste, remboursez un peu un truc, là. Non, allô? Allô? Bon, faut l'avouer, j'en ai déjà vu des cochonneries depuis que j'ai commencé cette émission. Mais là, on racle vraiment le dessous du fond de tiroir. Jaws in Japan, tu parles. Ça n'a Jaws que le nom et une furtive apparition de requin géant dans la dernière scène. Pour le reste, c'est un produit sans intérêt qui arrive à être trop long tout en faisant que 57 minutes. Pas mal. À noter d'ailleurs que le titre a visiblement été changé à la dernière minute pour éviter les problèmes juridiques, pour être remplacé par un Psycho Shark qui fait référence au film d'Hitchcock. Oui, parce qu'on est davantage dans une histoire avec un propriétaire d'hôtel un peu bizarre, plutôt que dans un véritable film de requin. En fait, ce film appartient à un genre très particulier qu'on appelle le film d'idole, voire de gravure idole plus précisément, et qui consiste à voir de jolies filles qui se contentent généralement de prendre le maximum de poses aguicheuses entre le sexy et le kawaii pour des films au scénario minimal. Censé mettre en valeur des mannequins qui feront pour la plupart des pubs photos, voire qui compléteront leur CV en interprétant de la J-pop préfabriquée au kilomètre. Et là, justement, nous allons suivre deux de ces idoles, l'ultra-poumonné Nonami Takizawa et la minodante Airi Nakajima, dans les rôles respectifs de Miki et Mai, deux étudiantes en bikini qui échouent pour leurs vacances dans un motel miteux au bord de la mer, où le gérant ténébreux a une tête d'ado de 35 ans, et semble avoir un lourd secret. Ce film est une véritable honte. Déjà, ça bouffe à tous les râteliers. Ça essaie vaguement de se faire passer pour un film sexy, ça essaie de se faire passer pour un film de requin, alors que le requin, il apparaît, semble-t-il, dans des rêves, ou il apparaît vite fait à la fin pour une scène qui est rajoutée sans aucun rapport avec le reste du métrage. Et puis ensuite, le film, il tente de se raccrocher aussi au passage à la saga Ring, hein, d'Hideo Nakata, avec des cassettes de caméscopes qui, quand on les visionne, frappent l'imagination de ceux qui les regardent, et qui fait qu'après on ne sait plus vraiment si on est dans le rêve, si on est dans la réalité. Et puis en plus, il lorgne un petit peu du côté found footage à la Blair Witch, sans en être totalement un, puisque on n'a même pas juste les images de caméscopes qui pourraient être récupérées, mais... un tournage qui se fait comme un film classique, mais qui se termine avec l'idée que on a pu voir les rushs de ce qu'il s'était passé. En fait, tout ça, c'est assez nul et ça capitalise essentiellement sur la plastique de ces deux interprètes principales que le réalisateur filme obligeamment en train de faire tout ce que l'on attend d'une jeune fille japonaise, c'est-à-dire glousser bêtement, prendre des poses selfie et avoir l'air le plus sexy possible dans un bikini minimal. Et on va aller voir ces bikinis parce que, censure oblige, elles restent même en bikini quand elles prennent leur douche. Ah oui, il peut pas y avoir de nudité. Et puis, j'espère que vous aimez les tongs. Parce qu'Ijiri, il filme littéralement avec les pieds. Ou plutôt, il filme les pieds. de tout son casting pour essayer de se donner un style un petit peu pris sur le vif. Ce qui nous donne tout un tas de cadrages ras-les-chevilles hyper moches. Vous allez pouvoir comparer toutes les modèles de claquettes existantes au Japon. Vous allez rajouter à ça une image cracra vidéo dégueulasse, une durée qui n'excède pas l'heure, une musique qui n'existe pas, juste une chanson de J-pop impersonnelle au final. Et ce, même si la bande originale est censée être composée par un certain Takayoshi Tarui, qui a à peu près fait que ça d'ailleurs. Mais franchement, je pencherais plus quand même pour des musiques libres de droit. Et on sera sûrement pas étonné qu'Ijire ait pas fait carrière, hein. Il a été assistant réal, avant de tourner deux films du même tonneau avec des jolies filles qui minaudent, et basta. Quant aux vedettes féminines, elles sont charmantes, certes, mais pareil, à part des pubs photos et un peu de musique, elles quitteront vite le métier. Alors ça fait d'autant plus mal au derrière que pour visionner ce film, j'ai dû le commander sur internet, un bon prix, une édition américaine qui me permettait quand même d'avoir des sous-titres anglais, une édition qui ne comporte pas de bande-annonce du film, mais un petit making-of qui montre vraiment que l'équipe était plus que réduite. Mais au moins, je dois accorder ça aux actrices. Elles ont mouillé le maillot de bain, littéralement, avec de très nombreuses scènes à la mer, de nuit, sous la pluie, par un temps franchement dégueulasse. C'est pas facile tous les jours d'être actrice, c'est pas facile tous les jours d'être idole, surtout quand au final on se retrouve dans un film d'une telle qualité.
Alors, pour le puriste, il s'agit de ce qu'on appelle du V-cinéma, c'est-à-dire du direct to vidéo sans budget pour le Japon, qui repose quand même essentiellement donc sur le matage de jolies filles, hein, ces idoles qui parfois sont aussi en super sentai. Pour ce tatané, il en sort 25 par mois des comme ça, et franchement, on est dans un autre monde.
Bon alors, quelles sont les capacités squalographiques, puisque c'est désormais le terme officiel, de Psycho Shark? Originalité, non acquis. Un peu de ring, un peu de psychose, un requin, et surtout des gonzesses à la plage, tu fais pas un film avec ça. Histoire non acquis. Ça n'a ni queue ni tête. D'ailleurs, même les sous-titres sur mon DVD avaient l'air de raconter autre chose que ce qu'on voyait à l'écran. Personnage insuffisamment acquis. Les personnages masculins se contentent d'avoir l'air ténébreux, les filles de faire des pauses pour téléphone portable. Bon, un point pour les bikinis qui jouent très bien. Réalisation, non acquis, c'est moche, et ça met même pas bien en valeur les filles, ou le requin. Requin, non acquis. Alors déjà, on voit quasiment pas de requin pendant tout le film, un aileron à un moment, et à la toute fin, quand il jaillit hors de l'eau, et ben c'est une espèce de baudruche absolument immonde. Au final, ça fait un point. J'ai déjà fait, mais j'aime pas le faire, en avis personnel, je vais enlever des points. Moins 0,5, parce que c'est carrément déplaisant. Déplaisant à regarder. Seule la scène finale et le saut du requin peuvent peut-être un peu vous faire pouffer de rire. Et encore. Total, 1.5 sur 20. Jaws in Japan est non seulement violemment nul, mais en plus, c'est le pire film des 42 qu'on a traité jusqu'à présent.
Alors tu sais, Japon, je t'aime beaucoup, tu m'as accordé plein de joies vidéoludiques, cinématographiques, animées. Mais là, après un coup pareil, je n'aurai qu'une seule réaction. Eh bien voilà, allez, on va tirer mieux avec la boîte à requins, je tire ressort... Killer Shark. On l'a déjà fait celui-là. Ah non, c'est la version de 1950. Bud Botticher. Le patrimoine. Allez, et ensuite... Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop là. Ah, deux salles, deux ambiances. Atomic Shark 2016 de AB Stone. Oui, là on n'est pas dans le film de patrimoine. Alors quelques recommandations avant de boucler le podcast. Si vous êtes du côté de Caen, le vendredi 24 mai, eh bien je ne saurais trop vous conseiller de rôder autour du cinéma luxe, car va avoir lieu la 11e édition de la soirée Nanarland, nulle pire ailleurs, avec rien moins que The Barbarian et Troll 2. Un beau programme. Sinon, un podcast autour des adaptations de livres en film. Il s'agit d'Adapte-moi si tu peux, qui notamment a livré un numéro autour des Dents de la Mer, comparant le livre de Peter Benchley et le film de Spielberg. Une vision assez intéressante, notamment de personnes qui n'ont pas forcément la même vénération que moi pour le chef-d'œuvre de Spielberg, et qui ont donc un esprit plus critique sur celui-ci. C'est pas mal de voir d'autres points de vue sur ce film. Voilà, n'oubliez pas aussi la liste de Quentin qui récapitule tous les films que nous avons traités ici, que je vous mets toujours dans les liens sur le site de Shark Parade. Je vous retrouve dans 15 jours. En attendant, vous pouvez retourner vous baigner.